France Europe, l'émission européenne des radios judaïques, est réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Voilà, la victoire des démocrates et de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine est désormais officielle, quoique toujours contestée par le président Trump. Une présidence de Donald Trump qui aura, durant 4 années, bouleversé les relations entre l'Union et les États-Unis. Sous Trump, les rapports avec l'Union se sont crispés sur un certain nombre de sujets, allant de la politique étrangère au commerce en passant par l'environnement et le numérique, sans oublier de l'agriculture et la santé avec la crise du coronavirus. Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, l'Union européenne pousse un soupir de soulagement, mais que peut-elle concrètement espérer de cette élection ? Que tout revienne comme avant, que tous les sujets de discorde disparaissent ? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Christian Lequen, professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris. Bonjour monsieur Lequen.
Bonjour monsieur.
Alors je disais que vous êtes professeur de sciences politiques et spécialiste des questions de diplomatie des affaires européennes. Vous dirigez une revue, co-dirigez une revue, European Review of International Affairs. On peut aussi vous retrouver régulièrement vos éditoriaux dans l'excellent journal L'Ouest France, peu lu dans l'Est de la France, où nous sommes plus habitués à lire les DNA. Mais je sais que vous connaissez très bien notre région puisque vous êtes diplômé de Sciences Po Strasbourg, c'est bien ça ?
Absolument, j'ai vécu 3 ans à Strasbourg pour mes études, mais plus que ça, j'ai une de mes arrière-grand-mères qui était alsacienne. Voilà, donc j'ai une partie de ma famille qui a vécu et continue d'ailleurs de vivre dans la belle région d'Alsace.
Alors on vous adopte encore plus pour cette émission. Au cours de cette émission, nous recevrons Caroline Laforgue, qui est donc membre active des Jeunes Européens Strasbourg, qui vous posera directement une question. Alors monsieur Lequen, revenons tout de suite à cette élection de Joe Biden. En tant qu'observateur, quels sont pour vous les principaux enseignements du scrutin, je dirais cette fois-ci plutôt interne, pas spécialement en termes de relations avec l'Union Européenne ?
Bah écoutez, d'abord c'est une victoire qui a été quand même très serrée. On pouvait penser après ces 4 années, cette gestion catastrophique du Covid, que Trump allait être battu de façon nette. Or c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il continue à avoir dans le pays, les États-Unis, une partie de la population qui partage complètement ses vues sur le protectionnisme, le retour à l'Amérique grande, etc. etc. Donc, effectivement, on peut se réjouir, nous, Européens, de la victoire de Joe Biden, mais il ne faut pas non plus que nous considérions que, voilà, Trump était simplement une parenthèse qui ne pourrait plus jamais revenir. On pourrait avoir en 2024 à nouveau un candidat républicain qui défende les mêmes idées que Trump, peut-être un peu plus sophistiqué dans le style et la manière de communiquer, mais en tout cas qui soit porteur des mêmes idées, parce qu'il y a vraiment une évolution au sein du Parti républicain qui a commencé il y a quelques années vers cette forme de populisme.
C'est une tendance lourde, comme vous le dites en ce moment. Alors on va tout de suite proposer à avoir avec nous Caroline Laforgue des Jeunes Européens qui souhaite vous poser la question suivante.
Bonjour Olivier, bonjour Monsieur Lequen. Le 3 novembre dernier, une tribune portée par le mouvement Européen France et l'Association des journalistes européens, parue dans les Échos, critiquait la quasi-absence dans les médias français de débats politiques concernant l'Union européenne, à l'image du discours sur l'état de l'Union de Madame von der Leyen. Les signataires de la tribune demandaient donc à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se saisisse du dossier. Ce même jour, les Américains se rendaient aux urnes pour élire leur prochain président au travers du système des grands électeurs. Or, les semaines précédant cet événement, les mêmes médias que j'évoquais à l'instant avaient multiplié les sujets, les émissions spéciales sur ces fameuses élections. Au point que Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes, tweetait qu'il serait vraiment formidable qu'on s'intéresse autant à l'Union européenne qui, elle, je cite, change nos vies. Alors comment expliquez-vous, Monsieur Le Ken, un tel engouement pour les élections américaines, dont peu de Français maîtrisent finalement le système électoral? Et pourquoi les élections européennes et l'actualité européenne passent au second plan dans les médias français?
Oui. Écoutez, d'abord, le fait que l'Europe soit peu couverte par la presse, c'est une vieille histoire. Moi, ça fait 30 ans maintenant que j'essaie modestement de décrypter l'Europe et de faire connaître ce décryptage aussi à un public large, pas seulement de spécialistes. Je me rends compte que les questions qu'on se posait il y a 30 ans, c'est-à-dire les rédactions ne sont pas très intéressées par les questions européennes, le rédacteur en chef n'est pas passionné par les articles venant du correspondant à Bruxelles. Ce sont des choses que l'on retrouve de la même manière aujourd'hui. Et je pense, pour répondre à la question du mouvement des jeunes européens, que c'est lié au fait que, dans le fond, dans l'élection américaine, vous avez une personnalisation très forte et un mode extrêmement confrontationnel de politique. Et ça, cette confrontation, ça plaît énormément à la presse. Ça plaît parce que, en gros, vous avez un rapport qui peut être traduit de façon binaire, un peu noir et blanc. Alors que l'Europe, c'est beaucoup plus de la négociation, du compromis compliqué, il n'y a pas vraiment de personnalité qui symbolise la politique européenne. Il y a des leaders nationaux, il y a des responsables d'institutions, mais il n'y a pas quelqu'un qui vraiment l'incarne. Et il n'y a pas ce combat binaire qui, dans le fond, plaît aux médias. Et je crois que la réponse est là, parce que c'est encore un processus qui, quelque part, est un processus diplomatique, avec des compromis subtils, etc. On a du mal à s'en emparer et à considérer que ça peut intéresser le grand public.
On reviendra sur les compromis subtils qui sont encore nécessaires aujourd'hui. Alors, pour ce qui est maintenant de retour sur cette élection, quelles seront les marges de manœuvre de Joe Biden au niveau domestique en termes de politique étrangère? Parce qu'on sait qu'il ne devrait pas avoir la majorité du Sénat avec lui. Aura-t-il les coudées franches pour mener sa politique?
Alors, le premier point est très important. Effectivement, il risque de ne pas avoir donc l'une des chambres, le Sénat, qui restera sous majorité républicaine. Mais au-delà de ça aussi, il ne faut pas oublier que les démocrates, lorsqu'ils sont élus, ont tendance à vouloir mettre le curseur beaucoup sur la politique intérieure et notamment sur toutes les questions sociales. Je veux dire, il y a un grand chantier qui avait été commencé par Obama autour de la réforme, par exemple, du système de santé, ce qu'on avait appelé l'Obamacare. Il y a aussi des garanties à donner aux Américains les plus modestes qui ont voté Trump et qui l'ont fait en pensant que Trump défendait mieux l'économie nationale. Je pense que tout ça compte aussi dans la stratégie que va devoir aborder Biden. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'au sein du Parti démocrate, en particulier à sa gauche, il y a des élus, des membres du parti qui considèrent que le rôle des États-Unis, ce n'est pas d'être le gendarme du monde, et donc qu'il ne faut pas trop investir dans la politique étrangère. Et ça, c'est un point important pour les Européens, parce que ça serait une illusion de penser que parce que maintenant nous avons Biden, qui sera un homme plus aimable, plus classique dans ses relations avec l'Europe, subitement les États-Unis vont revenir en force en Europe pour s'occuper de la protéger, etc. Non, ça je crois que c'est une erreur d'analyse.
Mais on peut aussi se poser la question à contrario, c'est que finalement il peut être bloqué à l'interne par des considérations, on dirait, institutionnelles et être poussé à agir davantage à l'international. Vous pensez pas?
Oui, alors ça c'est une autre possibilité. Effectivement, quand vous êtes, enfin, c'est pas vrai des États-Unis uniquement, c'est vrai de manière plus générale. Quand vous avez des gros blocages internes, vous pouvez être tenté d'aller vers la politique extérieure. Mais là, je crois quand même que, vu la polarisation sociale qui existe aux États-Unis, j'ai cité la question de la protection sociale, mais plus encore, il y a la question raciale quand même que Trump a antagonisé au lieu de la calmer. Il y a un travail qui va devoir être prioritairement orienté quand même vers cette pacification de la société américaine.
Alors on va revenir un petit peu sur les sujets qui fâchent, c'est-à-dire le changement notamment dans la politique commerciale des États-Unis. On peut attendre un changement. On peut rappeler qu'il y a eu que ce sont deux grands partenaires commerciaux, les États-Unis et l'Union européenne, et qui ont mené une véritable guerre tarifaire, pas comme au stade de la Chine actuellement, mais bon, on a eu des situations sans précédent, notamment pour les produits agricoles, sur une rivalité dans l'aéronautique avec Boeing et Airbus. Est-ce que ces divergences vont se dissiper sous l'ère Biden, selon vous ?
Non, justement pas. Je crois que il faut distinguer le style, qui sera un style, encore une fois, beaucoup plus diplomatique. Il y aura un dialogue. Je crois que M. Biden ne passera pas son temps à faire des tweets où il insultera les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe comme le faisait Trump, mais les conflits d'intérêts resteront, bien entendu. Et vous citiez Airbus, bon ben voilà, ça ne sera pas réglé du jour au lendemain parce que Biden est là. Il y aura sur le plan commercial toujours des conflits entre l'Union européenne et les États-Unis. Tout comme la question, par exemple, du budget de l'OTAN, ce qu'on appelle le burden sharing en anglais, c'est-à-dire la part de contribution, puisque les États-Unis accusent l'Europe de ne pas payer suffisamment, ça aussi, ça
c'est
restera.
2% du PNB de chaque État, c'est ça.
C'est ça. Et ça n'est pas parce que Joe Biden arrive que subitement il n'y aura plus un conflit entre les deux rives de l'Atlantique. Non, pas du tout. Simplement, on reviendra à un traitement certainement plus normal, avec davantage de dialogue aussi avec les grandes capitales. Parce que c'est ça qui caractérisait quand même la présidence Trump. La relation bilatérale avec les grandes capitales était devenue beaucoup plus difficile, notamment avec l'Allemagne, qui est traditionnellement un pays très ouvert à la relation transatlantique.
J'enchaîne, il sera donc à la tête de l'armée la plus puissante du monde. Pensez-vous qu'il continuera de se désengager politiquement et militairement comme le fait Trump encore actuellement ? Ou est-ce qu'il va se replacer comme, pas le gendarme du monde, mais sur une forme de statu quo ?
Gendarme du monde, j'y crois pas du tout, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Qu'il puisse y avoir encore un désengagement, notamment au Moyen-Orient, de certaines troupes, parce qu'on considère que finalement ça n'a pas grand effet, oui, ça c'est possible. Alors il y a une autre question, c'est est-ce que Biden acceptera de revenir dans le traité sur la dénucléarisation de l'Iran, puisque Obama l'avait négocié avec les Européens, mais ensuite lui l'a dénoncé. Bon, ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse et on n'a pas de déclaration formelle de Biden là-dessus. Autant on a une déclaration formelle de sa part sur le fait de revenir dans la Convention de Paris sur le changement climatique, sur la dénucléarisation de l'Iran, ça n'est pas le cas.
Sachant que on sait aujourd'hui que l'Iran dépasse largement la production d'uranium qui était prévue.
Oui, bien sûr, mais ça, là aussi, j'allais dire, c'est une vieille histoire. Les Iraniens, on négocie avec eux, mais on sait pertinemment que on négocie sur des bases qui sont toujours très très aléatoires. Oui, bien sûr.
On va pas dire, l'ère Trump aura aussi conduit les Européens à se poser des questions sur leur souveraineté militaire et stratégique. On a bien senti qu'il y avait une méfiance vis-à-vis de Trump. Est-ce que l'élection de Biden marquera-t-elle pas un retour en arrière ? On le sent aujourd'hui où les Européens vont peut-être perdre cette forme de solidarité, cette forme d'union qu'ils avaient contre Trump avec les craintes qu'il posait ou voilà le flou qu'il créait.
C'est une question très importante. Vous avez certainement observé comme moi que deux jours après l'élection de M. Trump, la ministre de la Défense allemande, chrétienne-démocrate, Mme Kramp-Karrenbauer, publie un article dans Politico où elle dit « L'autonomie stratégique de l'Europe, c'est une illusion, il faut revenir à la relation transatlantique parce que seuls les États-Unis peuvent protéger l'Europe, etc. » C'est-à-dire tout ça va à l'encontre de tous les efforts qui ont été lancés, notamment par le président français, M. Macron, pour développer justement une autonomie stratégique autour d'une politique européenne de défense. Et vous avez tout à fait raison. Il va y avoir un retour vers des réflexes très très classiques sur le plan de la sécurité. En Allemagne, dans les pays d'Europe centrale et orientale, mais là j'allais dire dans les pays d'Europe centrale et orientale, le réflexe n'a jamais été modifié. Et c'est là où il y a un paradoxe, parce que si nous voulons que Biden prenne au sérieux l'Europe, il ne faut pas que nous soyons divisés. La pire des choses pour la légitimité de l'Europe à l'égard d'une administration américaine, c'est sa division. Et c'est effectivement ce qui risque d'arriver. Donc je veux dire par là que la relation transatlantique, elle ne dépend pas que du partenaire américain, elle dépend aussi de la capacité qu'ont les Européens à se coordonner et à s'entendre sur les grands dossiers.
Et on a vu, il y a eu une grande interview dans le Grand Continent, je crois, du président Macron, qui lui a remis en cause ce discours de la ministre de la Défense allemande, où il lui disait qu'il était en désaccord complet et que Merkel le suivait, ce qui était un peu bizarre comme argumentation.
Oui, alors les commentateurs à Berlin disent qu'il y a une composante électoraliste aussi, puisque bien que Mme Kramp-Karrenbauer ait été écartée de la course à la chancellerie, il y a peut-être une tendance à faire un peu de surenchère par rapport au candidat le plus conservateur, M. Merz, en exprimant vraiment les positions les plus traditionnelles de la démocratie chrétienne allemande sur la sécurité transatlantique. Mais il n'empêche que c'est perçu à l'extérieur comme un facteur de division et la réponse d'Emmanuel Macron le confirme.
J'aimerais revenir cette fois-ci sur des sujets qui, cette fois-ci, concernent aussi auront des conséquences cette fois-ci, mais pas directement avec les États-Unis, mais avec notre proche voisin, le Royaume-Uni. Est-ce que cette élection aura des conséquences sur la négociation en cours sur le Brexit, sachant qu'elle n'avance pas beaucoup et qu'on part de plus en plus vers ce qu'on pourrait dire un no deal? Est-ce que pour vous, cette élection constitue un facteur supplémentaire de crispation, ou est-ce qu'elle va permettre cette fois-ci à Boris Johnson de se dire finalement, mon partenaire Trump n'étant plus là, je vais quand même essayer de négocier quelque chose avec l'Union européenne?
Alors, d'abord, la question du no deal, j'ai plutôt le sentiment, au moment où nous parlons, qu'il y a quand même plus de chances que l'on aboutisse à un accord entre les 27 et le Royaume-Uni qu'il n'y en avait il y a 3 mois. On voit à Londres, en ce moment, depuis une quinzaine de jours, quand même, un discours qui est plus ouvert au compromis. Bien sûr, il reste des questions importantes en suspens. Enfin, il y en a deux essentiellement. La première, c'est l'harmonisation des normes si on a une liberté de circulation des marchandises. Et le deuxième point, c'est la pêche, qui est un sujet, alors là, conflictuel, et que les Britanniques gardent pour la fin parce que c'est une variable d'ajustement pour eux dans la négociation. Mais je n'exclurai pas tout à fait la possibilité quand même d'avoir un accord. Bien sûr, je peux me tromper parce que on ne sait jamais.
Il reste plus beaucoup de temps surtout.
Mais il reste plus beaucoup de temps, mais on peut trouver les moyens d'y parvenir. Alors oui, je pense que Trump, qui avait pris ouvertement position pour le Brexit, et ça c'était quand même une grande nouveauté, c'était la première fois qu'un président américain soutenait ouvertement la désintégration de l'Europe. Ça n'était jamais arrivé dans le passé. Et voilà, et battu. Et Biden a fait savoir sur un point important, il se définit lui-même comme irlandais parce qu'il a une grand-mère irlandaise. Mais enfin, c'est aussi un peu une stratégie électorale parce que quand vous dites je suis irlandais aux États-Unis, ça veut dire je suis proche du peuple. Donc c'est de la composante modeste de ce peuple, et c'est une façon aussi pour vous d'essayer d'avoir des voix. Mais en tout cas, il a dit clairement qu'il fallait que la Grande-Bretagne respecte le protocole signé en décembre dernier sur l'Irlande du Nord, qu'il ne voulait pas que les accords du Vendredi Saint 1998 garantissant la paix soient remis en cause par le Brexit, etc. Donc ce sont des signes qui allaient plutôt du côté de l'Union européenne et de l'apaisement. Et ça, Johnson est quand même obligé de l'entendre.
Il y a un autre sujet, mais cette fois-ci plus à l'Est, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu cette façon de faire de la politique, qu'on pourrait appeler un peu ce populisme de Donald Trump, servait de caution morale à plusieurs dirigeants de l'Union européenne, comme la Hongrie ou la Pologne, voire peut-être aujourd'hui la Slovénie, dont le Premier ministre était empressé de féliciter Donald Trump pour sa réélection alors que le dépouillement des urnes était loin d'être fini. Est-ce que là aussi, ça peut changer quelque chose, le fait qu'il n'y ait plus Donald Trump de l'autre côté de l'Atlantique pour ces pays-là, ou finalement ça ne change rien? Là on le voit, hein, y a un plan de relance qui est en cours de négociations, et des Hongrois et des Polonais se refusent de l'accepter, Trump ou pas Trump, ça ne change rien dans leur façon d'agir au sein de l'Union européenne.
Écoutez, je ne crois pas que l'arrivée de Biden mettra fin au phénomène du populisme. Il ne mettra pas fin au phénomène du populisme aux États-Unis, mais il ne mettra pas fin dans le monde occidental de manière générale, en sachant que ce phénomène, c'est un phénomène du monde occidental qui s'est développé depuis 30 ans autour du rejet de l'ouverture du monde, hein, si je peux le dire ainsi, de la globalisation, rejet des conséquences économiques, du libéralisme économique, et puis rejet des conséquences culturelles, puisque avec cette ouverture, on a eu forcément plus de circulation, plus de diversité culturelle, et vous avez une partie de la population qui aujourd'hui se pose des questions de type identitaire et qui pense à tort, à mon avis, que le seul moyen d'y répondre, c'est à nouveau l'enfermement national. Donc on continuera avec ça, et on a ça partout en Europe. Il se trouve que dans les pays que vous avez cités, la différence, c'est que les leaders porteurs de cette idéologie ont réussi à gagner les élections. Ils sont installés à Varsovie et à Budapest. Mais ce qui est certain, c'est que Trump permettait effectivement à Kaczynski, permettait à Orban de revendiquer une espèce d'appui idéologique.
Sur les valeurs, les fameuses valeurs.
Voilà, venant de la première puissance du monde, et ça, ils ne pourront plus le faire. Oui, ça, donc, ça pourra limiter un peu leur capacité rhétorique ou discursive, en sachant que le populisme, c'est beaucoup du discours et beaucoup de la rhétorique.
J'aimerais terminer cette émission, puisqu'on arrive au bout de cette émission, en allant un peu plus cette fois-ci au Moyen-Orient. On a déjà parlé un peu de l'Iran, mais moi j'aimerais revenir un peu sur Israël et notamment le déplacement de l'ambassade à Jérusalem. Est-ce que, là je n'ai pas entendu parler, est-ce que Joe Biden pourrait revenir sur ce choix, ou finalement ce choix est entériné pour les Américains ?
Écoutez, je vais vous répondre très honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu, en tout cas, de la part des démocrates, de déclarations américaines, de déclarations nettes ou même explicites parlant d'un retour de l'ambassade à Tel Aviv. Franchement, ça va dépendre, bien sûr, de la politique générale que les démocrates voudront mettre en œuvre à l'égard d'Israël, en sachant qu'Israël, c'est important pour tout président américain, pour une raison évidente, c'est qu'il y a 7 millions d'Américains de confession juive. Et voilà, donc ça compte dans la politique électorale nationale. Mais pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de projet de rapatriement, non.
Merci beaucoup, Monsieur Lequen, pour votre participation à notre émission et pour tous ces éclairages. Je rappellerai que vous êtes également l'auteur de l'ethnographie du Quai d'Orsay, Les pratiques des diplomates français, qui est paru en édition poche au début de l'année.
C'est ça, c'est une réédition en poche qui est parue au mois de février.
Un grand merci aussi à Caroline Lafort pour sa question pour les jeunes européens Strasbourg. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à l'Europe sur nos antennes. À bientôt.